étudier la foi, faire introduire la raison dans ce qui relève de la croyance, est-ce que ce n'est pas une espèce de montagne inatteignable? D'ailleurs, penser Dieu est-ce seulement possible? Donc voilà, ouais, et on a raison de s'inquiéter de ce but un peu vertigineux. C'est hors d'atteinte. Si on pense ça, on a raison. Dieu est hors d'atteinte. Mais nous pouvons quand même participer à l'ascension. Voilà. En deux sens. D'abord, en nous, il y a les connexions nécessaires. Non pas pour comprendre Dieu, alors une petite nuance lexicale, comprendre Dieu, il y a le mot « prendre ». On ne peut pas comprendre Dieu ni par l'intelligence, ni par la sensibilité, ni par les expériences spirituelles. Par contre, on peut le connaître. Surtout si on fait le jeu de mots de Claudel, « naître », « connaître ». Et donc, nous avons des connecteurs nécessaires. Nous avons tout ce qu'il faut en nous pour avoir, en tout cas, ne serait-ce que le désir de connaître. L'homme, naturellement, veut connaître. Et la deuxième chose, grâce à laquelle nous avons bien raison de nous attaquer à cette immense montagne, c'est que la foi, le désir de l'absolu, nous ont déjà fait grandir et ont déjà ébauché en nous une sorte de réponse à cette immensité. En fait, vous voyez, non seulement il y a les connecteurs, mais on a déjà quelques éléments de réponse. L'expérience croyante, qui peut tout à fait être pensée. Ensuite, les pensées qui montent vers le sommet participent au sommet. C'est-à-dire, même si vous êtes un débutant dans la recherche de l'intelligence, on participe quand même à ce sommet. C'est le cas d'une ascension sur une montagne. Quand vous faites une randonnée sur le Mont Blanc, vous êtes sur le Mont Blanc, même si vous êtes en bas. Et c'est déjà participer à l'ascension du Mont Blanc que d'être en bas. Donc en bas, en haut, peu importe, pourvu qu'on cherche. Sachant que, de toute manière, on n'arrivera jamais en matière de croyance, on n'arrivera jamais en haut. Ça serpente, pourvu qu'on monte. Hein. Bon, voilà. Sur les pentes que nous allons parcourir, donc, il n'y a pas de véritable exploit, pas de véritable sommet où on puisse poser les valises en disant « ça y est, j'y suis ». Voilà. En matière de croyance, en matière d'intelligence de la foi, on n'est jamais arrivé. Même quand on a un doctorat en théologie. Même quand on est saint. Voilà, c'est toujours encore à découvrir. Je pense même que les anges au ciel continuent à découvrir. Sinon, est-ce qu'ils continueraient à aimer? Or, saint Paul nous dit que l'amour est éternel. Quand vous serez au ciel, vous n'espérerez plus, puisque vous y serez. Mais par contre, vous continuerez à aimer. Enfin, j'espère. Bon, voilà. Dans les études, c'est donc pareil. La seconde image, un petit peu plus moins théorique, vous voyez ici à Strasbourg, c'est cette l'image que j'utilise, c'est l'arc boutant. C'est cette poutre oblique en hauteur qui vient consolider le haut du mur en son endroit le plus faible pour qu'il puisse supporter les obliques de la voûte. Voilà ce que c'est techniquement. C'est de l'art gothique, de l'art ogival. On a voulu monter vers Dieu. C'est bien une image que j'utilise. On a voulu monter vers Dieu, c'est bien ce que nous essayons de faire. On a voulu la clarté, c'est bien notre but. On a voulu la lumière, c'est le but du gothique, c'est aussi le nôtre. Monter vers la compréhension, c'est en effet lumineux. On va se laisser éclairer par la raison, on va se laisser édifier. Voilà. En fait, rien de cette fine structure sophistiquée ne tiendrait sans la masse des appuis. C'est une image réciproque, c'est une image des rapports réciproques entre la foi et la raison. On a besoin de ces appuis solides pour pouvoir monter à la clarté. Il n'y a pas de foi théorique. Et la foi est souvent très pesante, très empesée, parfois d'un rituel lourdeau, parfois d'un vocabulaire bizarre. Voilà. Mais on ne peut pas monter vers la lumière sans ces espèces d'épaisseurs. C'est vrai de nos existences humaines, vous l'avez peut-être remarqué. Voilà. En gros, pour que la foi de l'Église soit habitable, il faut qu'elle puisse être pensée, étayée. Vous voyez, comme on voit ici, avec des consolidations. La foi a besoin d'être consolidée par la raison, mais pas que par la raison. On va le voir tout à l'heure. C'est parfois un peu complexe. comme ici, au Mont-Saint-Michel. C'est parfois un peu complexe, mais l'enseignement consiste à rendre accessible cette complexité. Voilà, ça, c'est vraiment ce à quoi nous nous attachons, nous qui enseignons dans cette maison, et ceux qui animent les groupes. C'est-à-dire, on rend accessible ce qui paraît compliqué. Alors, sans faire simplet, mais juste en expliquant ce que c'est qu'un arc-boutant. Comment un arc-boutant est-il lui-même allégé? Et au bout d'un moment, c'est bon. Vous voyez, les choses s'éclaircissent un peu, et le complexe finit par former, finalement, un très bel ensemble, qui se tient, qui se contribue, les choses s'équilibrent mutuellement. Vous verrez, c'est très intéressant de voir à quel point les cours s'éclairent mutuellement. Voilà, le cours des christologies est éclairé par l'anthropologie, et vice-versa. Les cours bibliques, bien sûr, viennent soutenir et éclairer tout ça. C'est vraiment l'image de l'arc-boutant, me paraît une très bonne manière de rentrer dans des études. Il faut que ce soit solide. Il faut que ce soit solide, mais on monte vers la lumière, c'est-à-dire vers quelque chose d'inatteignable, hein, d'insaisissable, mais qu'on va recevoir. Voilà pour mes deux images. Voyons maintenant quel est le statut de l'interrogation. Vous vous posez des questions, peut-être que vous avez parfois des doutes, peut-être parfois on est presque écrasé par le poids et la véracité des questions. Vous avez envie de comprendre, eh bien le CIF est fait pour vous. Vous en avez assez qu'on vous empêche de réfléchir. Parce que ce serait trop prétentieux. Ou bien parce que, vous savez, la foi, c'est un grand mystère. Vous en avez assez qu'on vous assène des réponses toutes faites. Vous avez raison, le CIF est fait pour vous. Le mystère n'est jamais un empêchement. Au contraire, il est un appel. Le mystère n'est pas quelque chose qui obture la recherche, mais qui l'anime. Ce qui obture la recherche, et ce qui finalement éteint la foi, ce sont les réponses toutes faites. Et donc voilà, si vous êtes convaincu de ça, ben, qu'aille problème, vous allez réussir à suivre le CIF sans aucune difficulté, à vivre le CIF sans aucune difficulté. Rappelons que le mystère, mais je le dirai, et on le dira aussi en anthropologie, je pense, le mystère, c'est la présence de Dieu comme insaisissable, mais comme effectivement sensible, participative, et comme nos vies sont mystérieuses. Encore une fois, nous avons tous les connecteurs qu'il faut. C'est-à-dire, même ma propre existence est un mystère, est une énigme insaisissable. Ben donc, nous avons tous les moyens existentiaux, nous avons compris déjà, nous avons vécu déjà ce qu'est le mystère. Donc on peut faire un pas de plus pour Dieu. Ouais, mystère, ça ne veut donc pas dire, vous avez bien compris, soyons des aveugles. Avec des... comme les chevaux, vous savez. Je veux que tout le monde marche dans le même rang. C'est pas ça, le mystère. On l'a longtemps... je dis ça parce qu'on l'a longtemps fait croire. Sur l'orgueil de la foi, j'en parlerai tout à l'heure, peut-être. Alors, il y a plusieurs manières, ceci dit, de s'interroger, voire même de douter. Il y a le doute sceptique boudeur, C'est celui qui fait le malin, on en croit sans arrêt dans notre existence. Celui à qui on ne la fait pas. Quoi que vous disiez, il a déjà une réponse obturante. Il est souvent équipé de questions qui sont des prétextes à ne pas penser. Et donc ça, je vous le déconseille carrément. Nous ne sommes pas aussi dans ce type de doute, et il faut véritablement vous protéger de ça. D'abord, ne pas le pratiquer soi-même, et se protéger des gens qui le pratiquent. Il y a ensuite le doute méthodique, celui de René Descartes, 17e siècle. En fait, c'est une méthode pour comprendre, c'est-à-dire on interroge ce qu'on dit. On dit « le verbe s'est fait chair ». Ça veut dire quoi ? Le verbe, c'est quoi ? Donc voilà, on s'interroge effectivement, et c'est cette espèce de méthode de René Descartes qui consiste à ne pas accepter des slogans. Ah, c'est « le Christ est mort pour mon salut ». Ça veut dire quoi ? Moi, j'aurais préféré qu'il vive pour mon salut. Qu'est-ce que ça veut dire, « mort pour mon salut » ? Le Christ s'est offert à son Père en sacrifice d'expiation. Ouh là 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 ! Alors là, ça devient raide, hein. C'est mon cours. Donc, mais voilà une expression complètement imbitable. Complètement, si on y réfléchit 2 minutes. Donc on va y réfléchir. Et au lieu d'avaler le truc comme un enrobé, vous savez, les pilules amères qu'on enveloppe de sucre pour les faire avaler, au lieu d'avaler le truc, on va s'interroger. Voilà, c'est ça le doute méthodique, et donc c'est celui-là qu'on va pratiquer. Hein. Et même le mot doute étant trop, du coup. C'est une méthode, tout simplement. C'est un questionnement méthodique. Et puis il y a un troisième type de doute, c'est le doute vertigineux, le doute abyssal, celui qui vous abîme, qui vous fait descendre dans les abysses. Je vous le souhaite évidemment pas, et au contraire, le fait d'étayer la foi vous protège, dans une certaine mesure, contre ce type de doute, parce que ça, on ne le choisit pas. Autant, c'est un drame. Autant le premier doute, on le choisit. Il suffit d'être un petit peu... faire le malin, faire le Mickey, avoir fait 2-3 bribes d'études, et on peut le faire volontiers. Autant le troisième, quand ça vous tombe dessus, et bien là, c'est mieux d'être équipé un peu. Quoi. Mais la tempête, vous la prendrez. La tempête, vous la prendrez, mais si vous savez tirer des bords, ça va passer. Et bien le CIF peut aussi servir à ça. Il ne sert certainement pas au premier point. Si ce n'est à se protéger de ces gens nocifs. Chercher, interroger, c'est donc plutôt bien, au total. C'est même, il faut oser dire ça, hein, le cardinal Ratzinger, devenu Benoît XVI, l'a dit et redit, c'est même le contraire qui est dérangeant. Ce serait de ne pas s'interroger, de ne pas questionner la foi, qui est dérangeant. Je vais vous raconter une petite anecdote. Je visite beaucoup, moi, l'architecture, notamment, d'un grand nombre de pays, et je suis un grand spécialiste de la Turquie. Si vous allez à Istanbul, n'y allez pas sans moi, vous perdez votre temps. C'est Istanbul, la Cappadoce et tout, je connais vraiment par cœur. Et je travaille avec une agence turque, donc ils me connaissent. Et très souvent, ils me mettent 1, 2 ou 3 jeunes, vous savez, dont c'est le stage d'études, pour devenir guide. Donc ils parlent français et ils ont un stage à faire, comme nos étudiants en France. Hein. Et donc on me les donne parce que c'est un groupe français. Et donc j'en ai toujours 2 ou 3. Et une fois, j'étais avec un groupe de jeunes, des jeunes étudiants. On visitait la Cappadoce, donc beaucoup de choses à pied et tout. Et les jeunes étudiants en français, mais ils vous bombardent de questions, quoi. Et quand on voit des fresques, tout d'un coup, les grandes questions théologiques reviennent, hein. On voit une crucifixion en face d'une nativité, ben ils vont vous interroger sur pourquoi la mort sur la croix, au lieu de parler de techniques de peinture. Mais ils ont bien raison, d'ailleurs. Le soir, on dînait tous ensemble, les jeunes et nos jeunes stagiaires, et je voyais, le feu des questions continuait, et je voyais les jeunes turcs chuchoter à leurs voisins ou à leurs voisines, et puis le voisin et la voisine levaient la main et posaient une question. Et en fait, c'était eux qui avaient des questions. Et donc, au bout d'un moment, bon, je vois le processus, on en parle, et ils me disent, mais nous, En islam, on ne pose jamais de question à un imam. Douter, premièrement, c'est de l'orgueil. Deuxièmement, c'est le début du doute, donc du blasphème. Donc jamais on interroge un imam directement. Vous, vous avez une espèce de liberté invraisemblable. Et donc on a essayé de lui faire comprendre qu'en effet, chercher à comprendre n'est jamais un blasphème, mais au contraire, c'est Dieu qui le veut, parce qu'il nous a créés intelligents. Sinon, il ne nous aurait pas créés intelligents, parce qu'il ne nous tend pas des pièges dans la vie. De même, il nous a créés avec une sensibilité. Et donc, la sensibilité doit pouvoir participer aux expériences de la foi. Vous voyez, ceux qui veulent vivre une foi sans expérience sensible, sans participation émotionnelle. Donc voilà, ça c'est une petite anecdote, vous voyez, qui dit bien la façon dont nous pensons la réflexion. Donc nous aussi, on est plutôt pour. On est plutôt pour se poser des questions. On est plutôt pour l'intelligence de la foi. Donc c'est le centre, encore une fois, je répète, pour l'intelligence de la foi, dans ce sens-là. On est pour s'interroger, mais donc pas des questions prétextes, mais de celles qui font avancer, des questions qui continuent à entraîner la recherche. Des questions qui entraînent d'autres questions, voilà, et qui ouvrent à la lumière. Les études, donc, n'empêchent pas les questions, au contraire. C'est-à-dire, les études ne sont pas faites juste pour rassurer. Tout à l'heure, j'ai bien les arcs-boutants, vous voyez, c'est pour étayer. Mais on va quand même monter dans les hauteurs. Parfois, peut-être, aurez-vous le sentiment d'être ébranlé dans votre foi. Rassurez-vous, ce n'est que provisoire. Ce qu'on va faire avec vous ne consiste pas à faire effondrer les choses, tout au contraire. Même s'il y a des pans de murs qui vont s'effondrer. Ou disons, des replâtrages qu'il va falloir défaire. Voilà. Donc la raison, vous voyez, parfois, quand vous entrez dans un cours, vous dites « Oh là là, mais les choses s'effondrent !» Quand vous étudiez vraiment la Bible, vous vous dites « Oh, mais jamais j'avais vu ça comme ça !» N'ayez pas peur. Voilà, vous voyez, c'est pas du tout pour faire effondrer les choses, c'est juste pour aller vers la vraie construction. Il faut, en fait, s'évader des pièges de la pseudo-pensée. Il faut s'évader des réponses toutes faites. Il faut s'évader d'une certaine forme de foi qui refuserait l'intelligence. Sous prétexte de foi populaire ou je ne sais quoi. Mais on va s'évader avec un peu plus de méthode que les Dalton. Voilà. On va le faire avec un peu plus de méthode. On va en effet ouvrir des brèches, c'est-à-dire se déplacer. Et ouvrir des brèches, c'est pas démolir, c'est ouvrir. Voilà, c'est sortir des enfermements. Le but de notre travail, c'est bel et bien d'étayer, de construire, de consolider, de bâtir. Voilà, pour mieux habiter la foi. Donc on a vu deux images, on a vu le statut de l'interrogation, et maintenant je voudrais plaider sur... C'est un truc peut-être qu'on fait en anthropologie, mais c'est quelque chose que je fais beaucoup auprès des jeunes étudiants à l'Institut catholique de Paris, où j'ai un grand cours de 80 étudiants en licence humanité L1, et ils tombent sur moi comme premier cours de philo. Et ils ont peur, la philo. Et il faut y insister, je crois qu'on ne le fait pas assez, il y a plusieurs domaines différents et complémentaires pour l'intelligence de la foi. Il faut distinguer le cœur, la raison et l'esprit. Comme on le voit sur ce schéma, les trois ne peuvent se recouvrir entièrement. Ouais, c'est-à-dire on ne peut pas dire que toute l'intelligence de l'esprit ou de la raison doit être avérée par le cœur. Vous voyez, c'est pour ça que je les ai mis en... Par contre, on peut dire qu'il y a un certain nombre d'expériences du sensible qui vont éclairer la raison. Alors que très souvent, on pense le contraire. Très souvent, depuis René Descartes et compagnie, c'est la raison qui doit éclairer le sensible. Eh bien, il faut prétendre le contraire aussi. Le sensible peut venir éclairer l'intelligence. Vous savez, c'est comme des mathématiciens qui vous font une démonstration, puis qui concluent en disant « Waouh, c'est une belle démonstration !» Belle ? Vous voyez le truc ? En fait, c'est raide, mais non, ils trouvent ça beau. Donc voilà, le sensible, l'intelligence, l'esprit. Alors je distingue, vous voyez, raison, esprit. Pourquoi ? Parce que, par exemple, les expériences spirituelles relèvent de l'esprit, mais vont elles aussi animer l'intelligence. Par exemple, il peut y avoir dans la prière de véritables illuminations sur la personne du Christ. Et que l'intelligence va se mettre au travail pour confirmer. Voilà, c'est peut-être que vous en avez fait l'expérience, tout un chacun. De temps en temps, par exemple, vous avez une explication que vous lisez dans un texte, que vous entendez dans une homélie. Oh, alors ça, c'est mon rêve. Ouais, c'est que les gens entendent dans une homélie quelque chose qui va les illuminer. J'espère quand même que ça arrive. Et bien cette expérience relève de l'esprit. C'est pas généralement une homélie, c'est pas un cours de philo ni de théologie. Hein. Ça relève de l'expérience de l'esprit, l'expérience participative, parfois communionnelle, qui ne va jamais sans un aspect affectif, de communion effective d'une assemblée et de quelqu'un qui vous adresse la parole. Donc vous voyez là, c'est un peu le cœur, un peu l'esprit, un peu l'intelligence. Et donc ces trois manières de vivre l'intelligence de la foi doivent sans cesse s'étayer et s'animer mutuellement. C'est la raison pour laquelle, dans mon cours, par exemple, j'utiliserai beaucoup d'images. Beaucoup, beaucoup d'images. Et parfois même, on fera un cours de christologie sur une œuvre d'art. Parce que l'artiste ne s'est pas planté. Pourtant, ce n'était pas un grand théologien. Enfin, si, Rembrandt est un très grand théologien. Enfin, non, ce n'est pas un très grand théologien. C'est un très grand prédicateur. Jean-Sébastien Bach. Mais bon, là, je suis nul en musique. Mais Dieu doit beaucoup à Jean-Sébastien Bach. Et Rembrandt, Delatour, etc. Je ne connais pas beaucoup de prédicateurs qui aillent à cette hauteur-là. Ben, on verra ça. Hein. Mais vous voyez, ça, c'est une expérience du sensible. C'est une intelligence du sensible. Il y a donc une intelligence sensible de la foi. Bon, voilà. Tout ça, vous savez, je le tire de, par exemple, un personnage comme Jean Kelevitch, qui explique bien hein, qu'il n'y a pas que la raison qui conceptualise. Alors lui, il met tout ça ouais, dans l'expérience qui vient étayer, animer, enrichir l'intelligence, alors qu'avant lui, enfin bon, c'est pas le seul qui a pensé ça, Ricoeur, bon, etc. Mais avant lui, on avait tendance à dire que l'intelligence devait venir critiquer tout ça. Eh bien, il faut inverser. Vous voyez ce que je veux dire ? Il ne faut pas oublier que l'intelligence doit aussi critiquer. Mais pourquoi mettre l'esprit, enfin l'esprit, je veux dire la ratio, la raison, au-dessus et d'une manière surplombante ? La philosophie contemporaine nous a appris que la raison critique n'est pas au-dessus, elle est avec. Et donc elle est avec le beau, elle est avec vos tempéraments, ce que vous êtes, elle est avec vos convictions héritées, elle est avec votre spiritualité, avec votre conscience et même votre inconscience. Etc. Donc, ça n'est pas qu'une affaire cérébrale. On avait bien compris. Ça n'est pas non plus qu'une affaire de cœur. On avait bien compris. Alors, il y a une petite distinction à faire entre raison, raisonnable et rationnel. Ceci est rationnel, mais pas raisonnable. Vous voyez, une image, souvent une image marque plus qu'un long discours. Ceci est rationnel, hein, mais c'est pas raisonnable. Évidemment. Hein. Ceci relève de l'émotion, mais pas de la raison. C'est pas raisonnable non plus. Et donc, il faut comprendre ces domaines comme s'animant mutuellement. Et la raison doit se projeter dans la pensée. La pensée est plus grande que la raison. Alors, ouais, je fais une petite nuance lexicale, qui nous vient de Kant d'ailleurs. Peu importe. Hein. Le sensible pense. L'expérience pense. L'expérience esthétique pense, c'est-à-dire donne à penser, interroge. La foi donne à penser, elle interroge. Et la raison va chercher dans cette expérience. Vous voyez, des allers-retours dans mes flèches. C'est pas la pensée, la raison critique est en surplomb. Elle est plongée dedans et on va chercher des réponses dans tout le domaine du pensable. Or, toute notre existence appartient au domaine du pensable. Vous pouvez penser les relations amoureuses avec votre époux, avec vos enfants, avec vos amis. Vous pouvez le penser. Et c'est d'autant mieux vécu que c'est pensé. Avez-vous remarqué ? Les choses sensibles sont d'autant mieux vécues comme sensibles quand elles sont pensées. Waouh ! C'est pas mal ça, hein ? Ben, c'est la première semaine des exercices de Saint-Ignace. Regarde ta vie. Et si tu penses ta vie, tu la vivras d'autant mieux. Et donc, il y a cet adage dont il faut faire votre maître mot. Ce n'est pas exercer toute la raison de ne s'en tenir qu'à la raison. Claude Bouillard, qu'il faut saluer. C'est remarquable. Remarquable comme pensée. Ce n'est pas exercer toute la raison. C'est même déraisonnable de ne s'en tenir qu'à la raison. Voilà. Alors, il y a aussi plusieurs choses qui vont venir. Je vais vous donner quelques images pour illustrer ce que je viens de dire. En voici une. Un artisan. Il y a beaucoup d'intelligence du sensible chez cet homme-là. Et il y a l'expérience. Le gars, il sent le fil du bois. C'est sensible. C'est une très belle intelligence. Il maîtrise son art. Il y a un grand savoir-faire. Donc, vous voyez, intelligence sensible chez l'artisan, où est ? Vous voyez bien que c'est... Une deuxième image, Bartabas. Extraordinaire intelligence dans ce geste. Et même intelligence de l'animal. C'est-à-dire, l'homme est rentré pratiquement dans l'esprit animal, si j'ose dire. Si j'étais animiste, je dirais ça. Mais il y a une intelligence, une compréhension entre les deux. Une compréhension de quel ordre ? De la ratio ? N'empêche que c'est incontestable qu'il y a de la compréhension entre eux. Donc, vous voyez, ça ébranle cette espèce de superbe de la ratio qui surplombe tout. Quelle intelligence, quoi. Et sans compter, évidemment, encore une image, vous voyez, j'en ai encore deux. Les ressentis nous en apprennent beaucoup sur nous-mêmes, sur le monde. Ils éveillent l'esprit. Ce que nous sentons éveille l'esprit. Le sensible appelle l'intelligence et l'esprit. Ouvre les chakras, comme on pourrait dire. Encore une autre image. La pitié. Alors ça, moi, je conteste là-dessus beaucoup. C'est un des domaines sur lequel je piège tous les Nietzschéens. C'est celui sur la pitié. Nietzsche a horreur de la pitié. Il trouve que c'est benêt, que c'est crétin, que c'est faible. La pitié est une forme d'intelligence, d'ouverture à autrui. La pitié, c'est le fait que vous vous laissez gouverner, pour une fois, par votre sensibilité. Et c'est une sensibilité intelligente qui vous ouvre à l'autre, qui en impose. La pitié, c'est la sensibilité qui impose l'autre à votre esprit. C'est donc le christianisme qui a raison et pas Nietzsche. Ou bien l'amour humain, bien sûr. Rien de rationnel dans l'amour humain. Mais ce serait complètement déraisonnable de ne pas aimer. N'est-ce pas ? Donc voilà, ouais, des images pour bien vous expliquer tout ce que je viens de dire. On revient sur cette image du mont Ararat pour vous parler du mot théologie. Et j'arrête là. La théologie, c'est à proprement parler ce qu'on dit de Dieu. Théo, logos. Et c'est aussi le logos de Dieu, la manière dont Dieu parle. Je ne veux pas dire que Karl Rahner, Hans-Urs von Balthasar tiennent tout ce que Dieu dit, mais je dis que quand vous rentrez dans des études comme ça, Dieu se met à parler. Alors vous allez me dire, mais non, c'est... Non, si vous faites une expérience de rentrer dans le travail de la raison, dans le travail des groupes. Et si vous pratiquez une petite vie spirituelle, vous participez au logos divin. Car le logos divin ne s'est pas retiré des choses une fois qu'il a créé le monde. Il y est encore. Il est encore dans la communion fraternelle. Il est encore dans l'écriture sainte. Plus que jamais. Il est encore dans la joie de comprendre. Donc vous voyez, théologie, c'est à la fois un travail, comme on dit géographie, vous voyez, c'est l'écriture du paysage. Théologie, on pourrait dire, c'est l'étude de Dieu. Mais non, c'est plus que ça. Ouais, c'est une des rares logies où on participe à celui qu'on vise. Ou même mieux, où il anime la visée que nous avons. Le logos anime votre désir de le connaître. Le cœur de la théologie, c'est ça. Il peut y avoir des théologies très froides. Ce sera du mécanisme. Le mécanisme de la pensée. Alors nous, ce qu'on essaie de pratiquer ici, c'est pas tout à fait ça. C'est pas scolaire, c'est pas académique. C'est participatif. On se met à l'écoute, et même une écoute sensible. Amen. Je passe la main.
Est-ce que vous voulez réagir? Ça vous inspire?
Mais on a 2 ans pour en reparler.
À ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est que Roselyne, tu veux bien prendre la parole et puis on ira prendre un petit café après.
Je peux.
J'ai pas des belles images comme ça.
Hein. Vous inquiétez pas. Sinon, j'ai pas. Mais enfin.
Ça changera.
Tu vas me trouver dans le livre de théologie.
Oh, je l'ai trouvé, je pense.
En tout cas, pour vous dire tout de suite, moi, la question que le CIF m'a demandé d'ouvrir un tout petit peu plus brièvement ce matin avec vous, c'est qu'est-ce que vient faire la Bible là-dedans ? Il y en a qui sont quand même venus pour ou par la Bible. Donc comment on va situer la Bible dans toutes ces belles choses que Don Bernard vous a parlé ? Bible, et voilà. Alors moi, j'ai pas d'image. En tout cas, j'en ai qu'une. C'est la seconde. Va vite à la seconde.
D'accord. La seconde ?
La seconde image. Voilà. Parce que la Bible, évidemment, c'est des écrits. Donc, on va être dans des textes. Alors là, c'est un très ancien, un morceau très, très ancien, un des plus anciens qu'on ait. Un bout de rouleau d'Isaïe à Qumran. Voilà. Alors, en fait, Bernard m'a volé le début de mon exposé.
Oh,
c'est pas possible, ça. Il a dit que la théologie, c'était effectivement un essai de parole, de discours raisonné. Logos, il faut parler, hein, sur Dieu. Et effectivement, la Bible fait partie de ces lieux où on va vous dire que Dieu parle. Vous n'avez qu'à écouter à la fin d'une lecture dominicale. Le lecteur dit souvent « parole du Seigneur ». Donc vous avez censément entendu Dieu parler. Donc mon rôle, c'est de dire au fond... qu'est-ce qu'on va chercher dans la Bible en tant que, on l'a dit dans la foi chrétienne, parole de Dieu. Alors, parole de Dieu, là, elle est écrite. Il va y avoir un gap entre les deux. Tu peux revenir peut-être un peu en arrière. Je pose tout de suite ce que je vais dire. La Bible, c'est pas un à côté de la théologie, c'est pas un morceau d'esprit, un morceau de cœur ou un morceau de raison. La Bible, pour moi, c'est un terreau. C'est un ou le terreau nourricier, le premier, on va dire, après il y en aura d'autres, vos vies en sont d'autres. Mais le premier terreau nourricier pour la théologie, c'est une source, la source qui diffuse à l'intérieur, qui va nourrir, qui va informer. Au fond, c'est à la fois un point de départ et un lieu auquel il faudra sans cesse revenir, entre autres peut-être, mais sans jamais l'oublier. Alors... on dit dans la théologie catholique et dans les documents catholiques que la Bible est parole de Dieu, là où Dieu parle, et on finit même par dire, ou on a commencé par dire, parce que ça remonte à l'évangile de Jean, que Jésus-Christ est logos, un mot qui veut dire parole, discours, donc il est lui-même parole. Bon, je voudrais essayer de creuser un tout petit peu ça. Qu'est-ce que ça signifie que Dieu parle dans la Bible ? Et je vous propose 3 temps, donc là tu en passes 2, voilà. premier temps, la Bible, c'est l'ensemble d'écrits rassemblés par les théologiens, les écrivains, les penseurs d'Israël à un moment donné, comme étant au fond l'immense enquête qui a été menée par ce peuple sur quelques siècles pour trouver son identité, raconter son histoire, le récit national. Nous aussi, on en fait un, des récits nationaux, Vercingétorix, Clovis, la Révolution, la République, etc. La Bible, c'est cette espèce de compilation, à un moment donné, de traces à travers les siècles de récits nationaux, de recherche d'une identité. Or, les peuples anciens, quand ils veulent dire leur identité, leur attachent toujours aux ancêtres divinisés et finalement à des dieux. Ce sont mes dieux qui disent mon identité. Et quand je suis en train de battre un voisin, ben c'est que mes dieux sont plus forts que les siens. Et quand on est battu, on se pose la question, est-ce que ces dieux ne sont pas un peu plus forts que les miens ? Voilà. Ça, c'est le projet des peuples anciens, ça a été le projet d'Israël, rechercher dans son histoire, dans les documents, dans les mythes, dans les légendes, dans les récits, dans les fables, dans les poèmes, etc., des traces de ce dieu ou de ces dieux qui accompagne, préside à l'identité d'Israël. Ça veut dire, quand vous plongez dans la Bible, vous vous plongez d'abord dans des histoires humaines. Et des histoires d'humaines à humaines avec tout ce que l'humanité a de beau, de grand, d'aspiration, de désir, on vient d'en voir des merveilles. Et aussi, et pour ça la Bible c'est sympa, de turpitude, de mocheté, de mensonge, de mort, d'abus, d'emprise. Vous en avez à tire l'arigot. Voilà. Il y a les deux. Et c'est bien parce que la Bible nous force à ne pas oublier ça. À ne pas oublier ça, que nous sommes dans un monde qui est divers, partagé, compliqué. Donc la première chose que je vais poser, c'est que la Bible, ce sont d'abord des paroles d'hommes. Ne jamais l'oublier. D'hommes à la recherche de Dieu et de leur Dieu, en quête de Dieu. Des paroles d'hommes qui essayent de trouver dans l'histoire les échos de Dieu et de la parole de Dieu. Ça, c'est mon premier point. Et la théologie ne doit pas oublier qu'elle part de ça. Elle part de ces paroles d'hommes, bien plongées dans la boue humaine, mais à la recherche, en quête d'écho de la parole. Ça, c'est mon premier point. Deuxième point, j'avance d'un pas, si vous voulez bien. En allant à la recherche de son Dieu, sa divinité, et ce qui fait son identité, dans l'histoire, Israël fait quand même une découverte qu'il nous a transmise, et on ne doit jamais l'oublier. Israël découvre que quelqu'un l'attendait, quelqu'un l'a précédé. Voilà. L'histoire, toutes ces histoires sont précédées. Précédées parce que quelqu'un l'attend et quelqu'un va l'accompagner dans cette histoire. Et ce quelqu'un, eh bien, on l'appelle, alors il y a des noms de divinités divers, mais on finit par l'appeler Dieu, le Seigneur, du nom qu'on ne prononce pas, le nom YHWH, qu'on a parfois appelé Yahvé. Voilà. Une personne qui l'attendait dans l'histoire, une personne évidemment qui vous dépasse infiniment, et qu'on ne peut au fond connaître qu'après coup, en scrutant les événements du passé, en scrutant son expérience. Pour moi, un des résumés de la Bible, c'est le récit de Jacob. J'aurais pu vous montrer l'échelle, mais je vous la montrerai le 15 octobre. Le récit du songe de Jacob à Bethel, vous savez qu'il s'endort, la tête sur une pierre, il fait un rêve, il y a une échelle qui rejoint le ciel à la terre, évidemment, donc ouverture vers le ciel, les anges montent et descendent. Quand il se réveille que tout ça est fini, il dit « Le Seigneur était là et moi, je ne le savais pas ». Et au fond, c'est ça qui anime la Bible, et au fond, c'est ça qui anime nos recherches. Peut-être c'est ça aussi qui anime la théologie dans toutes nos expériences, dans la vie humaine, dans l'histoire de l'humanité. Un jour, on se rend compte, le Seigneur était là, et moi, je ne le savais pas. Et là, on se met à faire de la théologie, essayer de dire quelque chose sur Dieu. Et la Bible va nous mettre un bémol, nous avertir. Mais là, je reprends ce que Bernard a dit tout à l'heure d'une autre façon. Elle va nous avertir du fait que Dieu est inatteignable, insaisissable. Augustin dit bien, si tu as compris Dieu, tu t'es trompé, ce n'était pas Dieu. Si tu as compris, ce n'était pas Dieu. Mais ça, c'est très fort dans la Bible. On ne va jamais avoir que des expériences limitées, partielles, provisoires, des flashs divers. Alors vous aurez, et on en veut beaucoup à la Bible pour ça, mais non, c'est sa force. Un Dieu de la tribu, un Dieu guerrier qui fiche la pile à l'ennemi, et Dieu sait qu'on lui demande dans les psaumes d'abattre nos ennemis, et on les prie, ces psaumes. Un Dieu violent, un Dieu jaloux, par amour, mais jaloux quand même. Voilà. Et en même temps, un Dieu paternel, un Dieu maternel qui inscrit ses enfants sur les paumes de ses mains, un Dieu amoureux, un Dieu qui se fait sans arrêt proche, un Dieu qui fait alliance, un Dieu qui accompagne, et au fond, un Dieu avec nous, puisque c'est la traduction du mot Emmanuel. Mais voyez, il y a toute cette diversité, et il faut, on ne peut jamais faire le tour. Et ça, la Bible rappelle à la théologie sans arrêt, à la pensée humaine sans arrêt, on ne peut avoir de Dieu que des expériences partielles, provisoires, limitées, situées dans l'histoire. Et je pense que Bernard est d'accord, la théologie, les théologies, elles sont toujours en contexte. C'est toujours contextuel. Nous n'avons pas la même ou les mêmes théologies qu'on avait au XIIIe siècle. Thomas d'Aquin a beau être génial, il n'a pas le dernier mot sur la théologie. Voilà. Non, c'était la théologie d'une époque. Et toujours limitée. Ça ne veut pas dire qu'elle est nulle. Ça veut dire que c'est un point de vue et qu'il faut avancer à partir de ça, en ajouter d'autres. Voilà. Les pères de l'Église, et le Concile de Vatican II le disent très bien, Dieu se révèle, mais il se révèle à notre mesure. Il a très bien compris que ce sont des images dans la Bible. Si on voit Dieu, le bûcheron ardent, n'approche pas. Le Sinaï, le peuple se cache. On ne peut pas. Il a très bien compris qu'il faut faire à notre mesure. Et notre mesure, eh ben, elle est quand même petite. Voilà. Et elle est variée. Alors, j'ajoute encore un pas. Si tu veux bien, à ta Bible, ton niveau de batterie, ça va ?
Oui, mais je vais, bon, mais ça je vais y remédier.
D'accord. Alors, tu me mets un 3 et on est bon. D'ailleurs, j'en ai pas pour longtemps. J'ajoute encore un pas, le Dieu que la Bible nous révèle. Ce Dieu, et Bernard l'a dit aussi, il est dit parole. Ce Dieu, il parle. Le Dieu d'Israël a parlé par les prophètes, par l'histoire, par des récits l'on trouve à ses rois. Le Dieu d'Israël est proche, il parle pour faire alliance. Et finalement, la foi chrétienne, c'est que Dieu se fait parole et la parole se fait chair. La parole se fait humanité. En Jésus, la parole de Dieu se fait chair, c'est ce que nous croyons. Et là encore, le Nouveau Testament, cette fois-ci, va nous aider et nous mettre en garde. Et ça, c'est très important pour les chrétiens. Le Nouveau Testament ne vous dit pas, Jésus nous révèle le visage du Père. Oui, mais le Nouveau Testament ne vous dit pas que vous savez tout sur Dieu. Mais pas du tout, et d'ailleurs pas tout sur Jésus, Christ, Fils de Dieu. Le Nouveau Testament, à son tour, il va vous mettre en garde. Il y a 4 évangiles, avec des différences et des points de vue différents, notables. Et plus on les lit, plus on se dit que parfois c'est même en contradiction. Il y a les lettres de Paul, et Paul ne se prive pas d'être contradictoire en lui-même. C'est pas la peine d'aller chercher la lettre de Jacques pour le contredire, il se contredit tranquillement lui-même. Parce que quand on parle de Dieu, on ne peut avoir que des points de vue en situation. Situation opposée, point de vue différent. Vous n'aurez jamais la totalité, vous n'aurez jamais une vie de Jésus. Je sais bien qu'on en écrit, mais c'est toujours n'importe quoi, c'est toujours faux. Vous n'aurez jamais un message, et il faut même aller plus loin. Vous remarquerez, si vous lisez attentivement les évangiles, que Jésus se livre très peu sur lui-même, le Fils de l'homme. Bon, c'est gentil, ça veut dire que je suis un être humain, Fils de l'homme. Bon, ça a plus d'écho dans l'histoire d'Israël, mais quand même. Jésus ne se livre pas, il laisse à d'autres le soin de découvrir son identité. Il va laisser à d'autres, en mourant sur la croix, le soin de continuer son histoire. Confie sa mère à son disciple et le disciple à sa mère. Et puis débrouillez-vous. Et la question centrale des évangiles, c'est « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Donc au fond, on en arrive à ce point où ce Dieu dont on a vu que le peuple était en recherche, en quête, ce Dieu qu'on a compris comme lui-même en quête de l'homme, il vient se faire chair et nous reposer la question « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Et donc il vient nous interroger. Au fond, on ne va pas à la Bible pour l'interroger, mais pour qu'elle nous interroge et qu'elle fasse toujours avancer la théologie. Voilà. Je vous remercie, j'ai plaidé ma cause. On a perdu Aude.
Non, voilà.
Je vais te enlever ma petite couverture. Je te laisse la place.